Parlons emprunt aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible d'emprunter quand on n'a pas un dossier parfait? Est-ce que c'est possible tout court? Et si oui, alors, comment est-ce qu'on fait et est-ce qu'on peut emprunter quand on a un dossier franchement mauvais? Bonjour, c'est Marian et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast FAQ Immobilier. Alors je me répète bien sûr, mais l'émission qui suit concerne l'ensemble des Français qui veulent acquérir ou maintenir une bonne culture générale de l'immobilier, de ses pratiques, de ses dangers et de ses opportunités. On commence. Alors voilà, depuis les premiers confinements, depuis le début du Covid, l'immobilier est en crise en partie parce qu'il est devenu plus difficile d'emprunter. Et oui, les banques sont plus vigilantes, elles font peu d'argent vis-à-vis de l'emprunt en lui-même, ça leur rapporte beaucoup moins que d'autres opérations. Donc on va dire, ça se passe pas aussi bien qu'avant. Pourtant, c'est toujours très intéressant pour nous d'emprunter. Oui, parce que concrètement, avec un taux d'emprunt aussi bas, l'argent n'a jamais été aussi peu cher, tout simplement. Alors voilà, on se retrouve dans la situation complexe où en fait la plupart des dossiers sont des dossiers un peu moyens, un peu imparfaits ou carrément mauvais aux yeux de la banque parce que oui, la banque minimise sa prise de risque en ce moment. Alors on commence par le conseil de base, il faut que j'en parle, c'est peut-être trop facile ou même trop facile à dire et très difficile à exécuter, économiser. Économiser pour vous faire un apport. Alors oui, je sais, ça veut dire que c'est à long terme que ça va se passer, mais si vous n'êtes pas capable d'économiser, peut-être que vous n'êtes pas capable d'investir, donc déjà, il peut y avoir un problème. Ensuite, il y a des outils pour ça, vous pouvez tout simplement programmer un virement automatique en début de mois, juste après avoir reçu votre paye, et puis ben, ça va partir sur un compte sur lequel vous n'avez pas vraiment accès, soit parce qu'il est sur une autre banque et vous avez oublié ou caché un petit peu vos accès en ligne, ou parce que pour une autre contrainte, vous ne pouvez tout simplement pas aller en récupérer l'argent qui est présent dessus dans l'immédiat. Donc voilà, même si vous avez un mauvais dossier, en fait, dans le fond, si vous avez un bon apport, donc on parle de 10% d'apport en général, 5% dans le neuf, mais si vous avez un bon apport, donc au-dessus de 10%, ou même si vous aviez la trésorerie pour acheter directement l'appartement, ou le bien immobilier que vous voulez acheter, bien sûr, et ben vous devriez être bon pour pouvoir réaliser un emprunt. Comme ça, vous prouvez que vous gardez de la trésorerie, et puis vous empruntez pour votre achat immobilier. Bon alors, ce principe de base, ça sous-entend aussi que vous avez déjà soldé vos dettes, ou au pire, vous les avez rachetées dans un autre emprunt qui est très lisible, qui est facile à lire, qui est sur la durée, qui a un faible taux et qui, de toute façon, n'handicape pas trop votre capacité d'endettement actuelle et celle que vous voulez réaliser. On dit par exemple que vous avez droit à 30% de taux d'endettement. Dans l'absolu, c'est faux. Si vous avez d'énormes revenus et avec très peu de coûts fixes, vous pouvez monter largement au-dessus de 30%. Mais c'est un bon seuil et une bonne visualisation. Donc si vous avez déjà des dettes, vous pouvez toujours emprunter en plus. Mais ça vous créera quelques petits soucis et ça fait partie du mauvais dossier type. Bon, maintenant qu'on a vu l'apport d'une manière générale, on va peut-être considérer les autres éléments qui peuvent compter dans l'apport. Par exemple, un prêt à taux zéro, le prêt action logement, le prêt d'accession sociale ou encore le prêt à taux préférentiel. Vous avez plusieurs choix, il faut vous renseigner sur toutes les opportunités que vous avez en dehors du prêt bancaire. Ils vous permettront d'alimenter le prêt bancaire avec un apport supplémentaire et plus de garanties. Donc si vous y avez accès, ben vous avez plus de chances de réussir votre emprunt. Donc je me répète parce qu'on est en audio et que c'est pas facile de revenir dessus, vous pouvez regarder tout ce qui est prêt à taux zéro, prêt à action logement, prêt à l'accession sociale ou encore le prêt à taux préférentiel. Bon, une fois que ce basique est prêt, une fois que ça c'est fait, eh bien on va pouvoir attaquer le gros du problème, la manière de préparer le dossier. Étape 1, testez votre dossier, faites des simulations en ligne, regardez ce que vous pouvez obtenir, juste pour vous faire une idée. Étape 2, apprendre à négocier. La négociation, c'est dans la présentation, c'est dans l'état d'esprit, c'est dans la capacité à rebondir ou à répondre, c'est dans la capacité à créer une histoire. Et concrètement, si vous savez bien négocier, eh bien, c'est aussi la preuve que sans doute, vous serez à même de rembourser votre emprunt parce que vous avez les capacités de rebondir en cas de souci. Donc là encore, on est sur quelque chose qui peut être long pour pas mal de gens. Apprendre à négocier, ça ne se fait pas en une fois. J'ai fait déjà quelques émissions sur le sujet. Vous pouvez revenir un petit peu en arrière et regarder les émissions avec le mot-clé négociation en gras. Là, vous pourrez apprendre quelques éléments intéressants. Mais retenez qu'après le fait d'avoir un apport, ça risque d'être le deuxième point clé pour obtenir un emprunt si vous partez avec un mauvais dossier. Bon, imaginons maintenant vous avez un minimum d'apport, ou de toute façon vous ne pourriez pas en obtenir, donc vous avez fait une croix dessus. Vous avez travaillé un maximum vos compétences pour négocier, vous avez travaillé un petit peu votre capacité à le faire, votre mindset. Pour commencer, il va vous falloir préparer votre dossier. Et oui, donc vous allez reprendre toutes les simulations en ligne que vous aviez, vous allez voir tous les éléments et documents qui sont nécessaires, et vous allez préparer au mieux votre dossier. Alors le moment venu, ne vous faites pas de bile, hein. Il existe plein d'informations sur internet sur quels éléments apporter pour obtenir et pour faire un emprunt. Et une partie de la préparation, je le répète, bah, ça sera votre présentation, bien sûr. Et pourquoi c'est essentiel de venir préparer ? Eh bien parce qu'en fait, si on vous oppose un refus direct, mais que vous avez déjà mis les éléments sous les yeux du banquier, et bien vous pouvez reprendre la parole et puis continuer à parler et ne pas accepter directement ce petit non qui serait devenu un non ferme et définitif si vous lui avez laissé la parole. Ça vous permet de rebondir et puis d'enchaîner sur l'élément qui vient, qui est de trouver vos points positifs. Parce que même avec un dossier imparfait, vous pouvez avoir des points positifs dont vous ne seriez pas conscient si vous n'aviez pas déjà fait vos recherches. Premier truc, est-ce que vous voulez emprunter un peu trop largement, mais que vous avez quand même la sécurité de l'emploi ? Est-ce que vous êtes fonctionnaire, par exemple ? C'est un bon point, ça, fonctionnaire pour une banque. Oui, un fonctionnaire peut peut-être négocier avec un plus mauvais dossier qu'un autre. Peut-être que vous vous trouvez trop jeune, mais en fait, être jeune, c'est quand même un gros atout par rapport aux garanties de l'espérance de vie. La banque est à peu près certaine que vous n'allez pas claquer entre ses doigts. Est-ce que vous avez une gestion bancaire abominable, mais que vous avez de très gros revenus ? Ça peut le faire. Ou alors peut-être que vous avez réussi ces deux dernières années, à établir un parcours bancaire impeccable. Pas de découvert et tous les mois, une petite somme mise de côté. Ça, c'est un bon indicateur pour le banquier. Et il y a encore d'autres éléments comme une stabilité géographique et conjugale, ou une durée d'emprunt courte, ou le fait simplement d'accepter l'assurance emprunteur de la banque. Oui, parce que généralement, elles sont plus chères, c'est là-dessus que la banque va faire ses revenus. Sauf que vous, ben, vous pouvez changer assez rapidement. Donc, c'est pas bête d'accepter directement l'assurance emprunteur de la banque. Au début, tout au moins. Maintenant, le dernier élément de votre négociation est sans doute le plus important. Vous arrivez avec un projet. Ce projet d'emprunt, c'est pour acheter. Alors si c'est pour investir, eh bien vous pouvez peut-être mettre en avant le fait que il y aura une partie. Oui, je dis une partie parce que investir avec en remboursant 100% de l'emprunt, c'est très très difficile. Donc vous pouvez mettre en avant qu'une partie de l'emprunt sera remboursée par eh bien les locations ou ce que vous allez faire avec l'investissement, et que donc en fait votre capacité d'emprunt serait plutôt à calculer sur ce qui reste à calculer une fois qu'on a déduit le remboursement réalisé par le rendement de l'emprunt, enfin de l'investissement immobilier. Et puis bon, dans tous les cas, vous allez emprunter, donc vous allez diminuer votre loyer parce que vous n'aurez plus de loyer sur la même période, donc vous pouvez un petit peu mettre ça en avant. Peut-être que vous allez emprunter un endroit où vous serez plus près d'un gros pôle d'emploi près de chez vous. Enfin, si vous faites ça, peut-être qu'économiquement, ça se tient très très bien à court terme également. Donc ça, il faut savoir le mettre en avant. Donc voilà, on a vu comment jouer la qualité en présentant son dossier de manière optimale, et c'est une bonne chose. Maintenant, avec la qualité, eh ben, si ça passe pas à chaque fois, il suffit que ça passe une fois. Juste une. Et c'est pour ça que vous devez aussi jouer la loi des grands nombres, vous devez jouer la quantité. Et oui, c'est comme ça dans la vie. Quand il suffit d'une seule victoire, d'une seule réussite, eh ben, il faut savoir jouer, tirer les dés aussi souvent que possible. Alors en pratique, ça veut dire quoi ? Eh ben, ça veut dire multiplier les rencontres avec des banquiers et faire appel à un, voire éventuellement, si c'est nécessaire ou faisable, plusieurs courtiers. Honnêtement, dans un univers où les tarifs varient beaucoup, il est possible qu'un courtier fasse sa marge tout en vous faisant réaliser une bonne économie ou tout en vous faisant tout simplement trouver un emprunt ou une banque qui souhaite, qui accepte de vous emprunter. Ça serait déjà pas mal. Bon, enfin, admettons que tout cela n'ait pas marché ou ne puisse pas marcher pour vous, il vous reste encore une carte à jouer, celle de trouver un co-emprunteur ou de monter une SCI à deux. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien tout simplement, vous montez une structure qui s'appelle une SCI avec un partenaire ou une partenaire qui est plus viable que vous, et vous récupérez la majeure partie de la SCI plus tard. Donc vous structurez l'entreprise à 50-50. Oui, qu'est-ce que c'est une SCI ? C'est une société civile immobilière. Donc, comme n'importe quelle société, en tout cas dans ce cas précis, vous la créez à plusieurs pour acheter des biens immobiliers. Et d'une manière générale, vous démarrez par exemple à 50-50 ou à 30-30-30 si vous êtes trois par exemple. Et puis ensuite, vous rapatriez les parts vers de votre côté. C'est-à-dire que vous devenez propriétaire à 99% des parts et votre partenaire prend 1% parce qu'il doit rester dans la SCI. Enfin, vous vous arrangez comme vous voulez. Mais bien sûr, vous ne faites ça qu'une fois que l'emprunt a été validé et a été pris en fait. Une fois que vous avez acheté le bien, et bien là seulement, vous restructurez la SCI avec votre proche de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème et que vous soyez bien majoritairement, très majoritairement, propriétaire du bien. Ou pas en fait, si vous voulez rester à 50-50. Voilà, moi j'ai gardé cette hypothèse pour la fin, pour la toute fin, mais c'est clairement pas la solution la moins utile, je pense. Pour ceux qui ont un mauvais dossier, ça risque d'être la meilleure option. Donc surtout, gardez-la bien en tête. Peut-être même d'ailleurs que vous avez des amis qui sont en train de monter leur dossier et qui ne sont pas sûrs de recevoir un prêt. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à leur partager ce podcast parce qu'il est terminé. Voilà, c'était Marian pour le podcast FAQ Immobilier. Comme toujours, je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à partager ce podcast à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin maintenant ou tout simplement à nous mettre 5 étoiles dans votre lecteur de podcast préféré. Moi, je vous retrouve bientôt, probablement dans quelques jours, par exemple mardi la semaine prochaine.